Bonjour à tous. Cet après-midi, je suis chanceux parce qu'on va aborder la puissance nucléaire dans la vie du chrétien. On est dans un des textes les plus connus de la Bible qui nous parle de la réalité spirituelle, peut-être la plus importante de tout le Nouveau Testament, l'union avec Christ. Alors, on l'a entendu dans la lecture que Nicolas vient de faire que le mot qu'on entend, un des mots qu'on entend le plus souvent dans ce texte, c'est le mot « fruit ». Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, quand est-ce que c'est la première fois qu'on entend parler de fruit dans la Bible ? Bravo, les gens qui connaissent bien la Bible. Effectivement, Genèse 1:28, soyez féconds ou soyez fructueux, multipliez-vous. Dieu voulait que Adam, le premier homme, reflète le caractère de Dieu, soit une image de la gloire de Dieu, son caractère, sa vertu, sa beauté dans la création. Un vrai miroir de Dieu, un miroir si attractif que qu'on dirait, quand on le voit, waouh, c'est ça Dieu ? C'est magnifique. Malheureusement, on sait bien que Adam a échoué. Au lieu d'être fructueux, il a mangé du fruit interdit et il a introduit le péché, la rébellion des hommes dans le monde qui ne reflète pas totalement la gloire de Dieu. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la vigne? Qu'est-ce qu'elle représente dans l'Ancien Testament? Petit indice, ça a déjà été dit. Israël, merci. Ésaïe 5, psaume 81 qu'on a lu, Jérémie 2, Ézéchiel, Osée, à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il a planté une vigne, un peuple, le peuple d'Israël, pour montrer sa gloire aux autres nations, un miroir si attractif de Dieu qu'on dirait « Waouh, c'est ça Dieu ! C'est magnifique ! Ça donne envie !» Malheureusement, tout comme Adam, Israël a aussi failli. L'histoire d'Israël, si vous la connaissez un peu, c'est l'histoire d'une déception qui entraîne une autre déception. La vigne que Dieu a plantée n'a pas porté le fruit escompté. Et peut-être qu'on se sent comme ça cet après-midi. Peut-être que tu as tout essayé, le développement personnel, le yoga, les analyses chez le psy, chez les médecins, mais rien ne semble marcher. Ta vie ne porte pas de fruits. Elle semble stérile. Et là, tu es là cet après-midi, tu es juste curieux de voir qu'est-ce que la vie chrétienne change concrètement. Ou alors, tu es déjà chrétien depuis plusieurs années, mais tu remarques que tu ne changes plus beaucoup ces derniers temps. Tu piétines dans ta vie chrétienne. Ce qui caractérise ta relation avec Dieu, c'est l'indifférence, peut-être le statu quo. À dire vrai, tu es fatigué de lutter contre ton péché, contre le mal à l'intérieur de toi. Tu es fatigué d'avoir l'impression de nager à contre-courant tout le temps. Et tu te demandes, est-ce si normal que ce soit si dur? La semaine dernière, Nicolas ne nous a pas parlé du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité censée venir en nous, être une puissance pour nous aider à vivre ça? Chez moi, ça ne semble pas marcher. J'ai l'impression qu'il n'est pas très actif dans ma vie en ce moment. Ou, et ça c'est la troisième peut-être personne qui est parmi nous, tu es zélé, tu sers à fond, tu es engagé, tu es fidèle, mais tu as l'impression que tu n'as aucun impact spirituel. Les choses pour lesquelles tu pries ne bougent pas. Les gens à qui tu parles de ta foi ne s'y intéressent pas. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais mal en ce moment? Si tu es une de ces personnes, si tu te sens caractérisé par ces personnes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de la puissance nucléaire cet après-midi dans ce texte. Elle s'appelle l'union avec le Christ. L'union avec le Christ nous permet de reconnecter avec le plan originel de Dieu en Genèse, qui était de porter du fruit, d'être plein de vitalité spirituelle et de joie. L'union avec le Christ commence avec la réalisation que si Christ n'est pas au centre de ma vie, alors je ne peux rien faire. Verset 5, qui est l'idée centrale, me semble-t-il, de ce passage. C'est Jésus qui parle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est l'idée principale. Et dans ce chapitre 15 de Jean, en fait, il y a deux parties dans son texte qui expliquent sensiblement la même chose. D'abord, il y a la métaphore de la vigne, versets 1 à 8. Et puis, il y a un commentaire de Jésus sur la vigne, sur cette métaphore, versets 9 à 17. Et au cœur de notre passage, une exhortation, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons vivre de la vitalité spirituelle et de la joie, alors nous devons demeurer en Jésus. Et on va voir ce que ça veut dire concrètement maintenant. Regardons la métaphore de la vigne. Alors il y a une petite diapo avec une image. Jean 15, verset 1, c'est le dernier « Je suis, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Là où Adam a failli, là où Israël a failli à vivre cette vie épanouissante, satisfaisante en Dieu, pleine de vie, ça y est, il y a quelqu'un qui a réussi, Jésus-Christ. Il est l'humain le plus épanoui, le plus satisfait qu'on puisse voir sur terre. Et la métaphore est très simple à comprendre. En fait, nous avons un cep. Dans ce texte, une vigne qui est plantée, qui a des racines profondes, duquel il y a de la sève qui coule et puis il y a des sarments qui représentent tout disciple de Jésus-Christ qui est accroché à lui par la foi. Vous voyez l'image ? La vigne ? Merci Google. C'était utile. Cette vigne communique deux choses essentielles au sujet de la vie chrétienne. On peut passer au plan. Que la vie chrétienne est d'abord organique et ensuite que la vie chrétienne, elle est saisonnière. Dieu veut que nous reconnections avec son plan principal qui était de faire de nous des êtres humains en relation avec lui et épanouis. Elle est organique, cette vie chrétienne, j'aurais pu dire relationnelle, mais organique nous permet de rester avec l'image de la vigne. C'est cette vigne avec ses sarments qui nourrit les ceps, qui est accroché à des racines, avec la sève qui donne de la vie, de la vitalité dans toute la vigne. L'appel de Jésus répété à ses disciples, c'est de demeurer. On soit, il dit, de demeurer en lui. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour, restons connectés à ce qui amène la vie à Jésus. Il est celui qui nous permettra de connaître la vitalité spirituelle. Ça, c'est une idée principale. C'est une relation organique. Je peux participer à des événements attractifs. Je peux aider à l'organisation d'activités religieuses ou non, qui vont intéresser les gens. Mais si je ne demeure pas en Christ, la personne de Jésus, si elle n'est pas au centre de ma vie, je ne pourrai pas devenir une personne attractive. Je ne pourrai pas changer. Je vais connaître le statu quo. Je peux être activiste, mais fatigué. Et je ne porterai pas de fruits. La vie chrétienne est d'abord organique. On a besoin d'être lié à Jésus-Christ. Deuxièmement, elle est saisonnière. Le vigneron travaille sa vigne différemment en fonction que ce soit l'automne, l'hiver, printemps, l'été. Parfois, il sort et il taille la vigne, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon, qu'est-ce qu'il fait, le vigneron ? Eh bien, il taille. Il émonde sa vigne à certaines saisons. Et ce qui apparaît être au départ une perte, il coupe ses sarments, il les taille. Ce qui apparaît être une perte devient finalement un potentiel de croissance. Tailler, oui, c'est un processus douloureux, mais pour un but bienveillant. Mais de quoi Jésus parle-t-il au juste ici ? Eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est que le mot « tailler » est le même mot utilisé pour parler de « purifier » au verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Pur et taillé sont les mêmes mots. De même que Jésus nous a purifiés par sa parole, une fois qu'on l'a acceptée par la foi, il continue de nous purifier par elle tout au long de notre vie. Bon, comment ça marche ? Eh bien, je vous explique. C'est saisonnier. Lors de certaines saisons de notre vie, avec Dieu au centre de notre vie, nous allons expérimenter un émondage. Dieu va faire ce qu'il appelle de la discipline. Il va nous remettre en question. Il va ôter des choses dans notre vie, ce qui va apparaître quelque chose comme douloureux. Il nous émonde afin que nous portions plus de fruits. S'il vous plaît, ne manquez pas le but bienveillant de Dieu dans tout cela. Il fait cela non pas pour nous punir, non pas pour nous faire payer pour une raison X ou Y. Il est là dans ces moments, ô combien douloureux, comme un bon père. Il nous discipline afin que nous portions plus de fruits. Hébreux 12 est clair. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, à sa pureté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Et beaucoup de personnes dans cette assemblée peuvent témoigner que oui, Dieu a fait des coupes dans le buisson de leur vie en les faisant passer par des épreuves, par de la souffrance, par de la discipline. En lisant la parole, ils ont été corrigés. Mais beaucoup peuvent aussi témoigner que le fruit escompté est beaucoup de loin meilleur. S'il vous plaît, si vous êtes en ce moment en train de vivre une épreuve, si vous souffrez, je suis désolé. Mais s'il vous plaît, ne souffrez pas deux fois. N'ajoutez pas à votre tristesse et à votre souffrance celle de croire le mensonge que Dieu est en train de vous punir pour quelque chose. Parce que une fois unis à Jésus, Dieu notre Père, si nous passons au travers les souffrances, il le fait pour notre bien. Il a un projet bienveillant pour nous. Certes, au premier abord, ça fait mal, ça nous attriste, mais plus tard, nous pourrons voir le beau fruit, porteur de paix. Et oui, nous pourrons dire que c'était une bonne chose. Même si c'est quand on est au milieu de... C'est pas évident à le dire. La vie chrétienne authentique, du fait qu'on est attaché au cep, est saisonnière et organique. Est-ce que nous voyons en ce moment du fruit dans notre vie ? Acceptons la vérité de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous voulons changer, si on veut être attirant, si on veut être, il faut qu'on apprenne à demeurer en Dieu. Et si Dieu nous fait passer par un temps où on est émondé, c'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais c'est qu'il a un projet bienveillant. Écoutez-moi bien, c'est très important. Il n'y a pas de personne plus engagée sur cette terre que Dieu. à vous voir transformé pour que vous puissiez porter du fruit, pour que vous soyez dans la vitalité. Donc demeurons en Jésus. Sinon, quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative ? Bien, l'alternative, c'est un terrible avertissement et je tremble juste en l'évoquant. C'est déjà là au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Mais aussi au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est un terrible avertissement. Dans le contexte immédiat, des gens vont expérimenter cela. Ce sont les personnes, les contemporains de Jésus qui ne vont pas placer leur confiance en lui. Mais de même, je crois, l'avertissement tient aussi pour nous aujourd'hui. S'il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne portent pas de fruits, eh bien, tout comme le vigneron jette des branches mortes au feu, le Père écarte de lui les branches qui prétendent être de la vigne, mais qui ne porte pas de fruits. On ne parle pas ici d'une personne qui a foi en Jésus-Christ, qui est attachée à lui, et qui, cette semaine, a failli dans un domaine de sa vie. Il n'est pas question de ça ici. Il est question de personnes qui, tout en se prétendant chrétiens, sur du long terme, ne présente pas les fruits, la vitalité spirituelle qui est attachée à l'union avec le Christ. Vous voyez la différence ? Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que on dérange parfois à l'EGE. Parfois, on est dérangé. On dit des choses difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on s'aime trop entre frères et sœurs, pour ne pas se dire des choses difficiles quand on a l'impression qu'une personne se dessèche. Ne rien dire tout en connaissant pertinemment les enjeux, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de cruauté. Du coup, je vous pose la question, quand était la dernière fois que vous avez été dérangé ? Quelle a été votre réaction ? Et aussi, y a-t-il quelque chose de difficile et vrai que je dois dire à mon ami dans l'amour ? Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre de plus en plus parce que je le réalise que le silence, c'est parfois un manque cruel d'amour. Donc, est-ce que je porte du fruit aujourd'hui ? Est-ce que je suis dans de la vitalité spirituelle ? Est-ce que je suis épanoui en Dieu ? C'est très important qu'on s'arrête un tout petit peu plus là-dessus. Une preuve qu'on est vraiment en Christ, c'est pas qu'on a vécu une expérience forte avec Dieu une fois, dans le passé. C'est pas parce que tu étais zélé quand tu étais étudiant, ou que tu participais activement à un groupe d'études bibliques, ou parce que tu donnais davantage de temps et d'énergie. La preuve que tu es vraiment en Christ, c'est le fruit que tu portes aujourd'hui. Si le sarment qui a, une fois qu'il a poussé, il dit « Bon, j'ai vécu ça avec Dieu, c'est bon, check, expérience faite. » Mais qui prend de la distance avec le cep, alors que pour vivre, il doit continuer à se laisser sa sève couler en lui tout le temps. Bien, si le vigneron passe et voit le sarment sec, que dira-t-il ? Que ce sarment sec n'est pas connecté au cep. N'attachez pas la preuve que vous êtes en Christ. On utilise parfois le mot conversion. N'attachez pas la preuve de votre conversion à un événement passé. Attachez cette preuve à une personne, à la personne de Jésus. La preuve que vous êtes vraiment un disciple, c'est le fruit que vous portez aujourd'hui. Ça commence en mettant Jésus au centre de sa vie et ça continue tout le temps. Et une fois qu'on est unis au serment, je veux juste rassurer des personnes ici, on ne peut pas être détaché du serment. Une fois qu'on est unis à ce cep, alors oui, on va porter du fruit, ou comme dit Jésus, Dieu va manifester sa gloire en montrant du fruit dans la vie de ses disciples. Celui qui ne demeure pas en Jésus, qui ne cherche pas à être en relation avec lui, s'il ne porte pas de fruit, oui, Dieu va se séparer de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux et celles qui sont vraiment attachés à lui, qui demeurent en lui, vont porter du fruit pour la gloire de Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Comment demeurer concrètement? Et c'est pour répondre à cette question que Jésus ajoute un commentaire à sa métaphore, versets 9 à 17. L'union avec le Christ est vitale, c'est la puissance nucléaire pour nous pour changer, c'est ce qui amène du fruit. Là où Adam a failli, là où Israël a failli, on peut enfin porter du fruit parce qu'on est unis à Jésus. On demeure en lui, premièrement, en gardant ses commandements qui produisent la joie. Comment demeurer en lui concrètement? En gardant ses commandements qui produisent la joie, versets 9 à 11. Mais avant ça, j'ai peut-être été pas assez clair par rapport à c'est quoi cette notion de fruit. Surtout que j'ai parlé d'activité, de zèle et tout ça. C'est quoi le fruit? Eh bien, j'imagine que certains ont déjà fait la connexion dans leur esprit avec un autre texte du Nouveau Testament, Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Attaché à Jésus-Christ, on devient une personne attractive, on développe ses qualités. C'est organique, c'est saisonnier. De telles personnes avec un tel caractère, oui, ça donne envie. On a envie de passer du temps avec ces personnes. On a envie d'apprendre à les connaître. C'est tellement attractif. Parce que c'est Dieu qui, on le sait, qui reconnecte avec son plan d'origine. On développe un caractère qui est plaisant, qui est agréable. Que les gens, quand ils le voient, ils disent « C'est ça Dieu ? Waouh ! C'est magnifique !» Et en fait, on se serait attendu à ce que Jésus nous dise que garder ses commandements, c'est un fruit de l'union, de notre attachement au cep. On se serait attendu à ce que Jésus nous dise que garder ses commandements, obéir à Jésus, ça c'est un fruit. Mais ce n'est pas ce qu'il nous dit ici, parce que vous avez vu ce qu'il dit. En réalité, l'obéissance à ses commandements est ce qui nous permet de demeurer dans son amour. Verset 9, vous avez vu ? Tout comme le Père m'a aimé et moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous voyez le lien entre les deux ? Garder les commandements de Jésus nous permet de demeurer dans son amour. Comment vous vous sentez ? Vous êtes content ? Vous êtes triste ? Vous êtes frustré ? On parle de commandements et d'amour. Peut-être, je peux peut-être dire que, en lisant ce texte, j'étais un peu embêté pour deux raisons. Première raison, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, le christianisme, ce n'est pas une question de règles, c'est une question de relation. C'est vrai ? Non ? On vote ? Oui, le christianisme est une question de relation avec le Dieu vivant et vrai. C'est la base. Mais dire que les commandements et les règles sont en opposition avec la relation n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que les commandements nous permettent de vivre cette relation. Imaginez un homme marié à une femme qui commence à démarrer une relation avec une autre femme. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet homme ? Vous lui demanderiez de respecter son alliance, l'alliance qu'il a fait avec sa femme. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de communiquer à sa femme en ne respectant pas cette règle de l'alliance? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer à sa femme? Il est en train de lui dire « Je ne t'aime plus ». Donc les règles ne s'opposent pas à la relation. En fait, les règles permettent de vivre la relation. La deuxième raison pour laquelle on est embêté, c'est que il est question ici d'amour, et certains peut-être se disent « Jésus n'a-t-il pas remplacé les commandements par l'amour quand il a dit « Aime Dieu et aime ton prochain » ?» Ce qui suggère que quand Dieu a donné des commandements à l'être humain, ce n'était pas par amour. Ce n'était pas l'expression de son amour pour nous. En réalité, qu'a fait Dieu quand il a donné des commandements à son peuple? C'était le témoignage de sa bonté et de sa protection envers eux. Il leur a dit « Je vous aime tellement que je veux que vous viviez en bonne relation les uns avec les autres. Je veux que ton corps soit protégé. Tu ne tueras pas ton prochain. Je veux que tes émotions et tes sentiments soient respectés. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je veux que chacun d'entre vous soit respecté dans votre intériorité et dans votre âme. Tu ne convoiteras pas les affaires de ton voisin. » Toutes ces commandements, ces règles étaient données dans un but de bienveillance. Jésus n'est pas, ou plutôt Dieu, n'est pas un genre de rabat-joie, même si, d'un fois, on se le dit à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs. C'est un peu ce qu'on se dit quand il y a des commandements. Au contraire, il donne des commandements pour, d'une part, que nous puissions vivre des relations saines, et d'autre part, pour que nous puissions être protégés et que nous puissions nous respecter les uns les autres. J'ai peur que certains, par peur du légalisme, gagner la faveur de Dieu en respectant les règles, les confondu avec la fidélité, qui est un fruit de l'esprit. J'ai peur aussi que certains, par peur du moralisme, les confondu avec un zèle pour la moralité, qui est aussi la sanctification. Le moralisme et le légalisme sont une obéissance au commandement pour des mauvaises motivations. Le but, c'est de mériter l'amour de Dieu, c'est de gagner sa faveur, c'est s'auto-promouvoir, c'est se mettre au contrôle, c'est chercher à s'élever, à rester au centre de sa vie. Mais la fidélité, un vrai zèle pour la pureté, c'est une obéissance au commandement de Dieu, par pur plaisir d'être en lui, d'être en relation avec lui. On connaît tous des personnes qui sont à fond, qui font envie dans leur vie chrétienne. Parce qu'on connaît ces personnes, parce qu'on connaît leur motivation, parce qu'on sait l'importance que Dieu a dans leur vie. Je crois qu'on connaît aussi des personnes qui sont moralistes et légalistes. Mais est-il possible que par manque de discernement ou par simplement paresse, on ait jeté le bébé avec l'eau du bain, qu'on ait dit non à la fidélité, non à la moralité, parce que on l'a associé à une mauvaise façon de vivre la vie chrétienne. Demeurons dans son amour en gardant ses commandements qui produisent la joie de vivre. Et dernièrement, demeurons dans son amour en nous aimant les uns les autres. Versets 12 à 17. Quand les personnes ont dit que Jésus avait résumé toute la loi avec ces deux commandements, aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu, elles ont tout à fait raison. Ce qui est astucieux, c'est ce que Jésus a fait en résumant la loi avec juste ce commandement. Parce que en aimant notre prochain, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? On ne va pas lui voler sa voiture. On ne va pas convoiter son conjoint. On ne va pas calomnier cette personne. On ne va pas faire certaines choses. Mais un truc que j'approfondis aussi depuis plusieurs mois maintenant, c'est qu'on n'aime pas simplement en ne faisant pas certaines choses. pardon, on, la phrase. En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils font mal aux autres en ne faisant pas certaines bonnes choses aimantes pour eux. Mais parfois aussi, on n'aime pas certaines personnes en ne faisant pas ce qu'on voudrait qu'elles fassent pour nous. Merci pour ceux qui signent qu'ils sont encore là. Aimer, ce n'est pas simplement ne pas faire certaines choses envers certaines personnes. Ne pas tuer, ne pas voler. Aimer, c'est aussi faire des choses qu'on voudrait que ces personnes fassent pour nous. C'est devancer leurs besoins, être intentionnel, prendre un temps avec ces personnes. Je vous donne quelques exemples. Aider à l'organisation d'une soirée, au feu ou à l'église. Visiter une personne malade ou visiter une personne qui était absente depuis plusieurs dimanches. Pourquoi, en fait, en faisant ces choses-là, on demeure en Jésus ? Eh bien, c'est parce que l'amour que Jésus a pour nous est en train d'être communiqué autour de nous. L'amour que Jésus a pour nous est en train, telle une sève, est en train de couler, de déborder dans la relation avec les autres. Oui, on demeure dans l'amour de Jésus en nous aimant les uns les autres comme il nous aime. Verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Demeurez dans mon amour. » Ça, c'est le secret d'une vie pleine de vitalité spirituelle. Comment Jésus-Christ a-t-il manifesté cet amour? Alors que nous étions stériles, sans fruits, que nous étions ennemis, ces rebelles, ne désirant pas, ne cherchant pas, ne prenant aucun plaisir à être en relation avec Dieu. Eh bien lui, dans son amour, il a ôté tout obstacle entre lui et nous pour que nous puissions être unis à lui. Il a traversé l'espace et le temps. Il a détruit la barrière de notre finitude et de son éternité pour venir comme un simple homme. Il a habité 9 mois dans le ventre d'une maman. Dieu est venu vivre sur cette terre en connaissant nos souffrances, nos épreuves. Et en venant mourir sur la croix, il a enlevé notre péché, nos fautes, notre honte, notre culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il désirait s'unir à nous. Dans son amour, il a accepté d'être uni à ce qui est aussi imparfait que nous, ce qui est parfois moche, ce qui est parfois méchant et ce qui est parfois rebelle. Jésus a désiré s'unir à des personnes comme celle-ci. Combien d'entre nous sentons au fond de nous que on sent un peu indigne d'être là cet après-midi ? Qu'il y a un décalage entre ce qu'on transparaît les uns avec les autres pendant 1h15 le dimanche ? Est-ce qu'on sait de notre réalité intérieure qu'on est quelque part un peu des fraudes? Combien d'entre nous pensons que nous sommes indignes d'être ici? Eh bien, Jésus s'unit à ceux et celles qui se savent pertinemment indignes, qui se savent pécheurs. Il est cet ami qu'on admire, qu'on prend pour modèle, qui connaît tout de nous. Il nous connaît de la tête aux pieds, tellement bien. Et pourtant, il reste avec nous, quand même. « Je ne vous appelle plus serviteur, nous dit Jésus, parce que le serviteur ne sait pas que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tandis que nous refusions de nous unir, nous refusions de nous unir à quelqu'un d'aussi repoussant qu'un criminel de guerre, lui, il a décidé d'associer sa perfection, sa vie parfaite, avec nous, à la nôtre, dans cette union indéfectible, permanente et indestructible. S'il vous plaît, entendez sa voix qui vous dit encore ce soir, tu ne m'as pas choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai choisi et je t'ai établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit, que ton fruit demeure jusque dans l'éternité. Oui, il nous a purifiés par sa parole, par l'évangile. Déjà, nous sommes purs. Et il continue de nous purifier afin que nous portions toujours plus de fruits. Il n'y a pas de lien plus profond et plus puissant que l'union avec Jésus. C'est la puissance nucléaire dans la vie chrétienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc demeurez en lui. Il est le vrai cèpe.